VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élection à Madagascar, les Malgaches votent aujourd'hui pour le second tour d'une élection présidentielle sur fond de règlement de compte personnel entre les deux hommes forts de la vie politique de la grande île de l'océan Indien, Marc Ravalomanan et André Rajoel. Deux ex-chefs de l'État déterminés à retrouver le pouvoir. Lors du premier tour, le 7 novembre, André Rajoel, 44 ans, a pris un léger avantage en recueillant 39,23% des suffrages contre 35,37% à Marc Ravalomanan, 69 ans. L'aura des deux hommes et surtout leurs moyens financiers apparemment sans limite ont balayé les 34 autres aspirants à la magistrature suprême. Élection en RDC, la campagne électorale pour les scrutins du 23 décembre suit son cours. À Chikapao-Kassai, région du centre du pays, une personne a été tuée hier en marge d'une manifestation contre la venue d'Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat à la présidence représentant la coalition au pouvoir. Eki Abadou nous en dit plus.
Emmanuel Ramazani Shadari a dû annuler sa visite à Chikapa, chef-lieu du Kassai. Le siège du PPRD, le parti au pouvoir, a été saccagé. Des militaires sont venus en renfort de la police débordée pour disperser des centaines de jeunes qui scandaient des chants hostiles. Le candidat du Front commun pour le Congo a prévu de clôturer sa campagne vendredi au stade des Martyrs à Kinshasa. Déjà dimanche, à Chikapa, au moins une personne a été tuée dans des heurts entre des partisans du pouvoir et ceux de l'opposition à l'occasion de la venue de Félix Tshisekedi, un candidat de l'opposition. Le Kassai est le fief de l'UDPS dont il est le président. Monsieur Tshisekedi se trouvait hier dans le Bas-Congo et son entourage affirme travailler sur les derniers détails avant son arrivée prochaine à Kinshasa. Le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, sera le premier parmi les principaux candidats à revenir dans la capitale après plusieurs jours à l'intérieur du pays. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a annoncé le déploiement de quelques 40 000 observateurs nationaux sur l'ensemble du territoire le 23 décembre prochain.
À 4 jours des élections présidentielles, législatives et provinciales, un grand nombre d'organisations locales préparent le déploiement de milliers d'observateurs sur le terrain. Comme le disait Eki Abadou, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, annonce à elle seule l'envoi de 40 000 personnes dans les différentes provinces du pays pour observer le déroulement du scrutin. En plus d'observateurs, la CIMOCEL, la synergie des missions d'observation citoyenne, va mettre en place une Situation Room, un centre de contrôle des élections en cours, pour suivre en détail le déroulement du vote. Notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahmane Dia, s'est entretenu avec le chargé de communication de la CIMOCEL, Luc Loutala.
Ont 178 territoires et dans les 178 territoires que compte le pays, nous avons 768 superviseurs territoriaux à raison de 30 superviseurs par territoire. Et donc pour l'ensemble du pays, la CIMOCEL va déployer 22 000 observateurs de court terme le jour des scrutins, donc le dimanche.
Et comment est-ce que vous travaillez avec la CENI?
Il faut dire que nous travaillons avec la CENI, c'est la CENI qui donne des accréditations. Et pour le moment, nous pensons que les accréditations ont assez bien marché parce que nous étions jusqu'à hier à 19 638 observateurs accrédités avec quelques dossiers encore qui n'étaient pas dedans et pour lesquels on attendait d'avoir les accréditations des OCT. Donc on peut dire déjà à cette proportion que la relation avec la CENI est assez bonne et que c'est pas toujours le beau fixe, mais je crois que la CENI reçoit à chaque fois nos recommandations et il y a une collaboration qui est établie entre la CIMOCEL et la CENI.
Et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés?
Le problème, vous savez, déployer une mission de cette taille, c'est un défi logistique déjà assez immense. Il y a des problèmes des communications, il y a des problèmes de déplacement des observateurs qui pour les formations. Et donc, si vous savez que les gens doivent parfois se déplacer pendant 3 jours pour aller suivre une formation, ce qui fait que la stratégie de la CIMOCEL, en fait, sur ce côté, a été d'engager des observateurs qui sont locaux et qui sont implantés sur leur propre territoire. mais le défi logistique reste quand même très très immense, ne serait-ce que pour le transport des supports de Kinshasa à des provinces et le dispatching. Le défi logistique reste quand même immense.
Est-ce que tous les observateurs sont formés au processus électoral? Est-ce qu'ils comprennent, puisqu'il y a de nouveaux outils comme la machine à voter?
Alors, il va de soi qu'on ne peut pas dire à ce stade tous les observateurs sont formés, mais d'ici vendredi, tous les observateurs seront formés.
Luc Loutala, chargé de communication de la CIMOCEL en RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, l'audition du général Gilbert Diendéré, l'un des présumés cerveaux du putsch manqué de 2015, a pris fin hier. Pendant près de deux semaines, au procès qui se déroule à Ouagadougou, le général Diendéré n'a cessé à la barre de clamer son innocence. La correspondance de notre correspondant dans la capitale burkinabé, Lamine Traoré.
Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré durant plus de deux décennies, a passé 13 jours à la barre. Du premier jour jusqu'au dernier jour, Golf, comme on le surnomme, a fait savoir qu'il n'est ni le commanditaire, ni le planificateur, sinon l'instigateur du coup d'état de septembre 2015 au Burkina Faso. Selon lui, la hiérarchie militaire devait être à la barre, car elle a soutenu le putsch. L'ancien premier ministre de la transition, le lieutenant-colonel Isaac Zida, que le général Diendéré n'a cessé de charger durant toute son audition, serait le fauteur de troubles. Je voudrais m'indigner du fait que cette situation qui est arrivée, c'est par la volonté d'un homme. Cet homme aujourd'hui n'est pas là, et c'est nous qui souffrons, a déclaré ce mardi le général, parlant de l'ancien premier ministre, aujourd'hui réfugié au Canada. Le général Diendéré déplore cependant les morts. Le 23 septembre 2015, j'ai déclaré que je regrettais beaucoup les morts, les blessés et les dégâts matériels. Je continue de regretter cela, monsieur le président. Je réitère cette demande de pardon au peuple burkinabé, a dit comme dernier mot à la barre, le général Diendéré, Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Violence au Mali, l'ONU a conclu hier à la responsabilité des chasseurs traditionnels Dogon dans le massacre fin juin de 24 membres de la communauté Peul dans le centre du pays. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Les conclusions de l'enquête de la MINUSMA ont été rendues publiques. Au moins 24 personnes, toutes peules, ont été tuées dans le cercle de Djéné, dans le centre du Mali, par des dozos, les chasseurs traditionnels, lors d'une série d'attaques les 23, 24 et 25 juin dernier. Les chasseurs dozos disent protéger les dogons contre les peules, alors que le conflit entre les deux communautés s'est exacerbé. Le rapport précise que toutes les victimes ont été exécutées par balles avec des armes automatiques et des fusils de chasse. La MINUSMA recommande au gouvernement malien de déployer des forces de sécurité dans le cercle de Djéné et réclame que le gouvernement rende public les résultats de sa propre enquête sur ces tueries. La MINUSMA espère que les milices d'Ozo pourront être désarmées alors que de nouvelles tensions ont éclaté lundi dans la région après l'arrestation de chasseurs suspectés de l'assassinat de 7 civils. Selon l'ONU, les violences intercommunautaires ont fait plus de 500 morts civiles dans le centre du Mali en 2018.
Actualité aux États-Unis pour terminer, un juge fédéral américain a reporté le verdict contre l'ancien conseiller du président Donald Trump, Michael Flynn. Et ce, après avoir exprimé son dégoût envers l'accusé, poursuivi pour avoir cherché à dissimuler ses contacts avec des Russes. Les précisions de John Lindon.
L'ancien général de 60 ans avait plaidé coupable fin 2017 d'avoir menti au FBI au sujet de ses conversations avec Sergueï Kislyak, à l'époque ambassadeur de Russie aux États-Unis. Il avait également accepté de coopérer avec la justice. En échange, il n'avait pas été inculpé pour des activités non déclarées de lobbying au service de la Turquie. Début décembre, le procureur spécial Robert Mueller, en charge de l'enquête sur l'ingérence russe, avait loué son aide substantielle et avait recommandé une peine sans détention. Ces appels à la clémence n'ont pas ému le juge Emmett Sullivan du tribunal fédéral de Washington, qui a accusé Michael Flynn de trahison. Exprimant son dégoût et son mépris envers l'accusé, le juge Sullivan lui a laissé le choix entre recevoir immédiatement une peine de réclusion potentiellement sévère ou attendre les conclusions de l'enquête de Robert Mueller pour savoir s'il a vraiment collaboré avec les enquêteurs.
Merci de votre attention.